Donc, on est de retour aujourd'hui pour un épisode de discussion d'affaires sur le podcast Hypercroissance. Et Jonathan Léveillé est avec moi avec une grande nouvelle. Jonathan, comment ça va aujourd'hui?
Salut Antoine, ça va extrêmement bien. Et toi?
Ça va bien, mais là, je pense que, comme j'ai dit, tu as une nouvelle pour nous. On parle de podcasts, on fait beaucoup de podcasts, toi et moi, ensemble. Mais là, je pense que tu as un nouveau contenu qui pourrait peut-être intéresser nos auditeurs.
Effectivement, on travaille sur un projet secret depuis 3 mois. On lance notre premier podcast ici, qui va s'appeler le podcast Pivot. Et le but de ce podcast-là, c'est vraiment d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs à développer leurs produits technologiques d'une idée à un produit à succès. Donc, on parle de plateforme web, plateforme mobile, on parle de SaaS, on parle de logiciels sur mesure. Et là, on a vraiment, vraiment, vraiment plusieurs bons épisodes de pré-enregistrés où on invite des gens à succès à partager ce qu'ils ont appris dans leur aventure. On va parler également de tout l'aspect technique en arrière, le côté plus techno pour éduquer les gens puis inspirer les gens et surtout d'éviter des erreurs. Et on va parler également du côté commercialisation de tout ça. Donc, il y a vraiment, vraiment du bon contenu. Ceux qui nous écoutent, si vous avez une idée de produit techno, vous êtes en train d'en développer un puis vous voulez maximiser vos chances de succès, eh bien, depuis cette semaine, depuis mardi, c'est disponible en ligne sur le site dev2ceo.com, donc D-E-V, le chiffre 2-C-E-O.com. Donc, voilà. Et cette semaine, on a lancé l'épisode avec nul autre que Simon Deben de G-Soft. À au-delà de 100 millions de dollars US en seulement quelques années. Vraiment, vraiment du bon contenu. Un partage très humble et transparent de sa part. Donc, on vous invite à écouter ça. C'est toute une réussite québécoise.
Oh wow, OK, j'ai hâte d'entendre ça. Et est-ce que c'est toi l'animateur qui va s'occuper un petit peu de ce podcast-là?
Effectivement, j'ai le plaisir d'animer le podcast et on a, comme je disais, plusieurs épisodes d'enregistrés à l'avance et des grosses pointures qui vont être. On commence fort avec Simon cette semaine de G-Soft, mais beaucoup de belles pointures là, déjà préenregistrées. Donc, restez à l'affût là, du calendrier qui va sortir bientôt devant nous. Là.
Français, anglais, le podcast?
Français, dédié à la francophonie. Donc, ça va être broadcasté sur toutes les plateformes populaires, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie. Donc, on vous invite à venir chercher ça en ligne pour nous écouter.
Et là, c'est le fan de podcast en moi qui continue à te poser des questions parce que j'ai comme un petit peu mon horaire de préétabli de ce que j'écoute le lundi, le mardi, mercredi. Est-ce que tu as déjà une journée en tête, une fréquence qui est prévue pour le podcast?
Tout à fait. Mardi matin, à 7h le matin, on diffuse les épisodes à chaque semaine. Donc, voilà. Soyez avec nous le mardi matin et abonnez-vous pour les alertes aussi pour recevoir les nouveaux épisodes.
Donc, le podcast Pivot va sortir tous les mardis matins. Jonathan va continuer à faire des épisodes et des enregistrements sur Hypercroissance où est-ce qu'on va parler affaires, mais il va également avoir son podcast à lui. Félicitations pour ça, Jonathan. Je suis convaincu que si vous y mettez du cœur et de la constance sur plusieurs mois, plusieurs années et que vous vous assurez, bien entendu, que votre audience ait du contenu à valeur ajoutée, vous risquez d'en voir des bénéfices sur le long terme parce que le podcast, c'est intéressant et c'est puissant également comme technique. Bon, aujourd'hui, plusieurs choses qui se sont déroulées dans l'actualité. Il y a eu les résultats financiers des grandes entreprises. C'était la fin du Q3, donc on est obligé de retourner à la table et de nous dire à nos investisseurs qu'est-ce qui s'est bien déroulé, qu'est-ce qui s'est moins bien déroulé. On va en parler un peu. Il y a finalement eu cette fameuse transaction qu'on attendait tous, la transaction de Elon Musk avec Twitter. Jonathan a fait des recherches assez intéressantes pour savoir comment tout ça a été financé, également comment ont été les premiers jours, parce qu'on enregistre le podcast le 31 octobre 2022. Aujourd'hui, l'acquisition s'est faite, si ma mémoire est bonne, vendredi dernier. Donc, vendredi dernier, c'était le 28 octobre. Il y a eu peut-être une dernière semaine, la semaine dernière, où est-ce qu'il y a fait une transition avec les équipes. Mais déjà là, il y a eu beaucoup de changements dans l'organisation. Donc, je pense que ça va être un sujet également intéressant à aborder. Mais avant toute chose, j'aimerais parler, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, Jonathan, des résultats trimestriels qui sont sortis des grandes entreprises publiques. Et il y a un des résultats qui a capté mon attention parce que tu le sais, je suis dans l'industrie du commerce en ligne, je suis dans l'industrie de la vente au détail, on pourrait dire ça ici. Et une des entreprises que je regarde continuellement, c'est Amazon. Parce que Amazon, qu'on le veuille ou non, c'est l'entreprise qui donne le tempo des ventes en ligne, soyons honnêtes. Il représente, je pense, au moment où on se parle aux États-Unis, plus d'un achat sur deux quand on parle d'achat en ligne. Donc, habituellement, quand tu es capable de regarder un trend de 50% des achats en ligne, habituellement, tu peux dire que ça pourrait être quelque chose qui influence également le reste de l'industrie. Et bon, ils ont sorti leurs résultats trimestriels pour le Q3, des résultats qui n'ont pas été nécessairement à la hauteur des investisseurs. D'ailleurs, l'action a perdu là, juste après l'annonce la semaine dernière, 12% dans les after hours, souvent qu'on appelle après qu'une journée sur le marché boursier soit terminée. Il y a tout le temps les after hours trade. Le stock a perdu 12,7%. Il a quand même perdu un certain pourcentage depuis le début de l'année. Et la statistique que tout le monde attendait, c'était quelle était la croissance que Amazon allait projeter pour le Q4 2022. Parce qu'on le sait, Q4, c'est le moment où est-ce que Amazon est supposé faire beaucoup de ventes. C'est le moment également que le commerce en ligne est supposé d'exploser parce qu'il y a les achats de Noël, il y a le Black Friday, il y a le Boxing Day, bref, toutes ces périodes. Et Amazon ont dit à leurs investisseurs qu'ils s'attendent à une croissance entre 2 et 8% pour le quatrième trimestre de l'année, comparativement au quatrième trimestre de l'année dernière. À titre de comparaison, Amazon avait vécu une croissance de 9% de 2021 à 2020 et de 38% de 2020 à 2019. Mais on s'appelle, bien entendu, il y avait le COVID. Mais tout de même, ce 2 à 8%-là n'a pas fait tellement plaisir aux investisseurs, d'où le stock qui a descendu. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous, de notre côté, dans notre organisation, puis c'est là que je vais amener un petit peu la réflexion aujourd'hui, c'est on est dans le commerce en ligne et on planifie cette période-là du Q4, le Black Friday, le Boxing Day, Noël, depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, déjà, c'est une période qui est importante. C'est une période pour les gens qui ont des boutiques en ligne qui nous écoutent aujourd'hui. Vous le savez, on fait beaucoup de provisions en avance. On fait beaucoup d'achats d'inventaire. Eh bien là, on voit les ventes d'Amazon et c'est ce qu'on voyait peut-être un peu venir. Clairement, il y a des achats en ligne qui sont considérablement à la baisse dans la dernière année. On retourne dans des magasins. Également, le consommateur a un petit peu moins d'argent. On en a parlé sur le podcast. On n'est pas tellement loin d'une récession, peut-être d'une crise économique même. Tous ces points-là mis ensemble nous indiquent que peut-être que le Q4 va être un petit peu plus complexe. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que nous, ce que ça nous permet de faire, on continue les stratégies, Jonathan, comme on l'avait prévu avec nos clients, mais on peut les avertir. On peut avertir nos clients en disant, écoutez, il y a des statistiques sur le marché en ce moment qui nous prouvent que peut-être que le Q4 cette année ne sera pas autant florissant que pu l'être pendant des périodes de COVID. Et ça, je pense, et c'est peut-être la conclusion que je veux venir ici, je serais curieux de t'entendre à ce niveau-là. Je pense que c'est un des points qui est excessivement important en tant que prestataire de services, en tant que gens, en tant que consultant qui aide des organisations, c'est d'avertir en avance des choses qu'on peut voir venir sans nécessairement savoir si on va avoir raison à 100%, mais au moins on est capable de gérer les attentes, de gérer également les investissements. Si l'intention d'achat du consommateur est plus à la baisse, mais peut-être qu'on va être un petit peu plus conservateur sur les investissements. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important qu'un prestataire, qu'un consultant doit faire avec ses différents clients. Je sais pas ce que t'en penses, Jonathan.
Mais tout à fait d'accord avec toi, Antoine. Le plus qu'on est capable de conseiller notre clientèle ou les prévenir de ce qui s'en vient en avant, je pense que ça peut être bénéfique. Je mettrais quand même peut-être une bémol. Tu sais, la majorité des données qu'on voit à l'heure actuelle viennent des États-Unis. On le voit d'une récession à l'autre. Souvent, c'est amoindri dans une économie plus francophone, québécoise. Les hauts sont moins hauts, les bas sont moins bas. Fait que j'ai hâte de voir comment l'économie québécoise va réagir pour les prochains mois qui vont arriver devant nous. Fallait s'y attendre un ralentissement avec les taux d'intérêt qui ont littéralement explosé d'une manière assez fulgurante dans un court laps de temps. On voit cependant beaucoup de signaux aux États-Unis depuis 2-3 semaines là, que le marché de l'emploi est en train de tourner vraiment à la faveur des employeurs et non autant à la faveur des employés comme on l'a vu dans les derniers trimestres. Donc, il y a vraiment un revirement de situation au niveau de l'économie des États-Unis. Ça va être intéressant de voir à quel point ça va nous affecter ici au Québec. Mais il y a le fameux dicton que quand les États-Unis ont une grippe, souvent on va tousser ici au Québec. Je pense que ça ressemble à ça un petit peu le dicton. Mais effectivement, je pense qu'il faut s'attendre à un ralentissement. On le voit entre autres ici au Québec dans la quantité de demandes d'ouverture de cartes de crédit est en train d'exploser, qui est un peu un signe que les gens commencent à avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Le nombre de faillites également commence à exploser aussi. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les commandes des prochaines semaines, prochains mois pour les entreprises. Et on voit que les gens sont de plus en plus serrés dans leur budget, bien je sûr. Pense, et ça va se répercuter sur...
Exactement. On y pense cette année pour les cadeaux de Noël. Je pense que c'est sûr. On sait ce qu'on voit. Nous, on a fait un gros événement il y a à peu près un mois de ça qu'on appelle hypercommerce, où est-ce qu'on aide les commerçants à planifier un petit peu leur Q4. Puis les statistiques vont en ce sens. Donc, écoute, je pense que c'est important de s'informer. C'est des fois c'est quelque chose que les gens n'aiment pas lire les états financiers, mais Moi, c'est un des trucs que j'aime le plus, lire les différents états financiers à la fin d'un trimestre. Souvent, ça dicte le tempo pour une économie globale. Quand tu regardes les plus gros géants technologiques, ben c'est eux qui vont mener le Nasdaq. Ben t'es capable de comprendre un peu où est-ce que la technologie va. La même chose pour le commerce de détail. La même chose pour des organisations peut-être plus dans le domaine alimentaire. C'est important, je pense, de lire tout ça pour bien comprendre ce qui se déroule sur le marché. Bon, il y a un autre sujet qu'on a parlé beaucoup récemment sur le podcast, et là, on vient à une conclusion, et ça risque peut-être même d'être des épisodes continuels qu'on va faire à ce niveau-là, parce que on s'attend à peut-être une petite tempête là autour de l'organisation Twitter. Donc, l'acquisition a été faite le 28 ou le 29 octobre dernier, le 27 ou le 28 octobre dernier officiellement. Déjà là, il y a eu des gros changements qui ont été opérés à son arrivée. Donc, le CEO est parti, ou du moins s'est fait renvoyer. La personne en charge du volet légal s'est fait renvoyer également. Plusieurs personnes ont été mises à la porte. Ça brasse chez Twitter, et je pense que peut-être même avant de parler de comment ça brasse en ce moment, tu voudrais peut-être expliquer à notre audience comment Elon Musk a trouvé 44 milliards, parce que c'est beau valoir 260 ou 300 milliards, mais habituellement, notre argent, elle est, pardonnez-moi l'anglicisme, locké à la bourse. Et si demain matin, on vend toutes nos actions de Tesla, ben, c'est pas tellement bon pour Tesla parce que le stock va aller à la baisse. Donc, il y a des manœuvres financières, il y a de l'ingénierie financière derrière ça. C'est pas vrai que tout l'argent vient d'Elon Musk. Peut-être tu veux nous en dire un petit peu plus, Jonathan?
Effectivement, je trouve le sujet intéressant parce que tout le monde le sait maintenant qu'il a fermé sa transaction. Mais moi, j'étais curieux de savoir comment il a réussi à faire le fameux montage financier. Si on regarde un petit peu le data, initialement, il souhaitait consacrer au maximum 15 milliards de sa propre fortune au financement de l'achat de Twitter et environ un 13 milliards qui devait provenir de prêts adossés à ses actions de Tesla qui lui évitait de vendre ses actions de Tesla. Maintenant, ça a vraiment bougé à travers le temps. Il a dû débourser de sa propre fortune 27 milliards. Donc, beaucoup plus que ce qu'il s'attendait initialement, le double. Et le reste du montage vient au-delà de 5 milliards qui vient de fonds d'investissement et de grande fortune, dont le cofondateur de Oracle, Larry Ellison. Donc, on le voyait entre autres dans les messages textes qui ont été divulgués publiquement.
Ah, donc, il a investi finalement, OK.
Exactement. Donc, il y a un bon montant qui vient de là, un chèque d'un milliard dans le fond qui vient de là. Il y a d'autres milliards qui viennent également du fonds souverain du Qatar Holding. Et il y a une autre partie du montage qui vient là de grandes banques, grandes organisations des États-Unis, dont Morgan Stanley, qui prête à elle seule 3,5 millions de dollars. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de sous différents intervenants. Mais ma grande conclusion de tout ça, c'est qu'Elon Musk a dû doubler son investissement initial dans Twitter et qu'il pensait mettre. Mais il y a quand même beaucoup de sous qui est financé, qui est un prêt qui est fait à Twitter au bout de la ligne. Et pour une société qui peine à dégager des bénéfices, de mettre une aussi haute dette comme poids sur l'organisation, ça va être intéressant de regarder qu'est-ce que ça va donner dans les prochains trimestres. Ouais. Parce que ça met une énorme pression financière. Et on l'a vu, entre autres, ici au Québec, de faire un peu ce qu'on appelle un leverage buyout. Il y a eu un bel exemple qui a mal tourné durant la COVID, qui est le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, les gens qui ont acheté le Cirque du Soleil il y a quelques années de ça, ont refinancé l'entreprise à un niveau d'endettement très, très élevé qui laisse peu de marge de manœuvre dans le cas d'une problématique comme une pandémie, qui fait que le Cirque du Soleil a eu vraiment des gros problèmes, des grosses difficultés financières et ont dû se placer sous la protection de la loi de la faillite en cours de route là, et de restructurer leur dette à travers tout ça. Donc, ça va être intéressant de regarder au niveau de Twitter. Le montage est bouclé, c'est acheté, c'est fait. Maintenant, à quel point ça va mettre une pression sur l'organisation qui présentement fait peu ou pratiquement pas de bénéfices au bout de la ligne.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer associer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com slash HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Bon, je pense que c'est assez clair. Là, si on regarde à peu près tous les articles qui sont sortis en sujet, Jonathan, il va y avoir un petit ménage là, qui va être fait. Hein? Il va y avoir un petit ménage qui va être fait. Il y a des points intéressants qui sont sortis. J'ai lu... bon, on s'excuse hein, pour les gens qui écoutent le podcast. On parle souvent de ça, là, de Elon Musk et Twitter. Mais bon, c'est fascinant. Ça nous intéresse. Donc, on aime partager un petit peu ce qu'on suit ici. Mais un des points qui m'a marqué, puis ça va être dans les articles que je vais mettre dans les liens de l'épisode, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a trop de personnes chez Twitter? Ben, il a dit très simplement, pour chaque personne qui code dans l'entreprise présentement, j'ai l'impression qu'il y a 10 personnes qui sont là pour gérer cette même personne. Donc, c'est ce qu'il a dit, mais si on s'entend là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on le sait pas, mais c'est pour donner un petit peu une image sur quelle est sa première perception de l'état des forces, de ce qu'il a devant lui à l'intérieur de l'organisation. Je le redis, il y a le CEO qui a été mis à pied, il y a également sa garde rapprochée, la personne en charge du volet légal qui a été renvoyée, les gens pour le premier week-end chez Twitter qui sont en charge un petit peu plus du volet de construire le produit, de construire le code derrière l'algorithme, derrière la plateforme de Twitter, ont été mis au défi. Il a regardé si les gens allaient travailler pendant le week-end, il leur a mis des défis spécifiques, il leur a demandé des questions sur les codes qui étaient utilisés. Donc, tu vois présentement qu'il est en période d'examen, ou du moins les gens à l'intérieur de Twitter sont en période d'examen à savoir si oui ou non ils vont garder leur poste. Ça, je pense que c'est un point qui est important à mentionner. D'un point de vue externe, maintenant, si on regarde la relation, ou plutôt la réaction du public, ben là, c'est plus ou moins intéressant. Je pense que tu as peut-être des choses à rajouter au niveau des entreprises et je rajouterai des points par la suite au niveau des célébrités.
Effectivement, je veux faire une remarque sur le fait qu'il y a beaucoup de hauts dirigeants qui se sont fait mettre à la porte pour avoir fait leur travail. Parce que ces hauts dirigeants-là ont la responsabilité de représenter les actionnaires et de monétiser le plus possible l'action dans le fond de l'entreprise et d'avoir forcé Elon à acheter un haut dollar, c'est qu'eux autres travaillaient pour les actionnaires. Et le fait qu'ils aient forcé Elon à acheter, c'était dans le bien voulu des actionnaires au final d'avoir la plus haute valeur des actions. Et tous ces gens-là se sont fait remercier parce qu'ils ont vraiment fait leur travail. C'était leur but là, de valoriser le plus possible l'organisation et de finaliser la transaction. Maintenant, quand le nouveau propriétaire arrive, lui, c'est pas ça son but final. Donc, grand ménage pour tout le monde. Puis après ça, on repart dans une autre direction. Mais il y a un point, par contre, qui est intéressant à regarder, c'est que Twitter, depuis 10 ans, il se promène de côté le titre de l'action. Il faut se rappeler qu'en 2013, ça a déjà atteint 74$, un petit peu au-dessus de 74$ US l'action. Et la transaction s'est faite là aux alentours de, je pense, 52 ou 54$ au bout de la ligne. Donc, depuis 54. Pratiquement 10 ans, l'action ne fait pas grand-chose. Là. Elle se promène toujours non, là dans...
Exact.
Exactement. Donc, il n'y a pas eu grand valeur.
Il n'y a plus de croissance. C'est quasiment aucune croissance d'utilisateurs depuis 5 à 7 ans. Ils sont à 238 millions d'utilisateurs. C'est des chiffres qui étaient quasiment sur la table, comme je le dis, il y a 5-6 ans de ça. Là.
Et ça va être intéressant de regarder devant nous comment une seule personne peut peut-être recréer de la croissance dans ce nombre d'utilisateurs-là actifs, juste dans une vision qu'il va apporter puis dans le ménage qu'il va faire et comment il va réussir à rendre ça rentable au bout de la ligne. Ce qui est triste, c'est qu'en étant privatisé présentement, il va y avoir beaucoup moins de transparence dans les résultats qui vont être donnés. Ça va être probablement dans 5-10 ans quand il va ramener ça en bourse ou revendre à quelqu'un d'autre qu'on va voir le résultat. Là.
Est-ce que l'entreprise a été privatisée déjà
oui.
ou elle est encore?
Oui, exactement. Toutes les actions ont été retirées. Si on va voir les stocks. En tout cas, je regardais là avant de se connecter en onde pour l'enregistrement. Sur exemple, TradingView, le stock n'est plus disponible à l'heure actuelle. Donc, ça semble être complètement retiré de la bourse, complètement privatisé. Donc, il va y avoir un peu moins de transparence. Mais connaissant Elon, on va peut-être avoir des brides sur Twitter de ce qui se passe parce qu'il se gêne pas du tout pour dire ce qu'il y a à dire. Entre autres, il a tweeté vendredi que la fête commence.
Ben oui.
Et l'oiseau est libéré. Donc, encore son style un peu flamboyant.
Ah, oui, oui, clairement. Mais bon, tu mentionnes un truc, est-ce qu'une personne peut amener de la croissance? Je pense que la question peut également se poser, est-ce qu'une personne peut amener de la décroissance? Parce que il y a des organisations déjà qui ont dit qu'ils quittaient la plateforme au niveau publicitaire. Je pense que GE, c'est une de ces organisations-là qui quittent. Et là, je les nomme, des célébrités. Shonda Rhimes, qui est créatrice là, et qui fait partie de Grey's Anatomy, qui a dit au revoir à Twitter. Bon, c'est pas nécessairement beaucoup de gens que personnellement je connais très très bien, mais Sarah Bareilles qui a gagné un Grammy, qui a quitté Twitter, Ken Allen, une autre personne qui a gagné un Emmy Award, qui quitte la plateforme. Mais c'est des gens qui quittent les plateformes pour aller sur d'autres plateformes, OK? Donc, il faut comprendre une chose, que ces gens-là, c'est chacun des trois personnes que je viens de mentionner, il y en a plusieurs autres, ont des millions de personnes qui les suivent. Donc, est-ce que ces personnes-là sont sur Twitter pour les suivre eux spécifiquement? Est-ce qu'ils suivent d'autres personnes? Donc, également cet argument-là, parce que là, déjà là, il a fait des remarques sur une attaque qui a été faite au mari de Nancy Pelosi aux États-Unis, comme quoi que bon, c'est peut-être pas tellement vrai ce qui s'est déroulé. Bref, il a déjà créé une genre de polémique autour de ça. Je pense que des organisations qui ne veulent pas être affichées à des prises de position qui sont un petit peu orientées free speech et que tout le monde donne son opinion, il y a des organisations qui ne voudront pas être affichées à ça et qui vont se retirer de Twitter. Donc, j'ai l'impression que la période de transition risque d'être assez intéressante, peut-être compliquée et à quelle vitesse Twitter va évoluer, ça va être quelque chose à regarder de près, parce que même encore une fois, ils parlent déjà de peut-être changer le modèle d'affaires, d'amener des gens qui ont le fameux crochet bleu à avoir une mensualité à payer. Bref, ça va vite dans la tête d'Elon Musk.
Ça va être vraiment intéressant. Et ce qui a fait beaucoup de tapage médiatique cette semaine, c'est GM qui se retirait comme annonceur de la plateforme Twitter parce qu'Elon Musk a acheté, parce qu'il se demandait où est-ce que ça s'en allait. Mais si on s'arrête un instant, c'est assez simple pourquoi GM s'est retiré. Bon, c'était cela. C'est même pas une question de où Twitter s'en va. C'est simplement qu'il y a une compétition qui vient de s'installer sur Twitter, un peu déloyale envers GM. Mais là, ils ont voulu faire un stunt médiatique avec ça. Et c'est assez bizarre, là.
Ah non, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve totalement fascinant avec, encore une fois, je pense qu'on le dit, je sais pas combien de fois sur le podcast, mais tout de même, à chaque fois que je lis mes nouvelles le matin des différents médias que je regarde, américains et canadiens, il fait tout le temps les premiers, les deux et les troisièmes articles dans à peu près n'importe quelle plateforme. Là, des fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est mon algorithme qui est uniquement orienté à Elon Musk ou je le sais pas, mais c'est assez impressionnant que dans les Business Insider de ce monde, les Forbes, même les nouvelles canadiennes qu'on est capable de trouver, il fait toujours les nouvelles. C'est incroyable à quel point il se retrouve partout. Et quand il fait les nouvelles, ben c'est ça, c'est pas des investissements en publicité, c'est simplement une manière de faire parler de lui qui, je suis convaincu, ça donne de la visibilité plus souvent qu'autrement positive à ses autres entreprises.
Et Trump faisait la même chose hein, quand il était là. Puis probablement le fait que Trump soit moins public à l'heure actuelle laisse de la place à Elon Musk parce que les médias
aiment ça. Ça laisse de la place à d'autres personnes, effectivement.
Oui. Et c'est à se demander s'ils ont des conseillers autour d'eux pratiquement pour proposer des idées flamboyantes de quoi mettre sur Twitter, quoi faire comme prochain mouvement pour aller chercher de la publicité. Je peux pas croire que ces gens-là sont seuls dans leur salon à autant lancer des messages comme ça.
On serait surpris. C'est des gens qui ont une compréhension du... Bref, c'est des gens qui agissent souvent selon leur vision des choses, selon leur entêtement. J'ai hâte de voir comment tout ça va se développer, mais clairement, je pense que encore une fois, on va ressortir les sacs de popcorn parce que ça va être un feuilleton assez intéressant à suivre. Bon, Jonathan, avant de te laisser filer, y a-tu d'autres choses, d'autres nouvelles qui te viennent en tête à partager avec notre audience?
Je dirais peut-être une dernière petite chose rapide au niveau des états financiers de Meta qui ont sorti dernièrement. Beaucoup de questionnements par rapport à tout ce qui se passe pour la métaverse. Ils ont confirmé leur vouloir de mettre encore plus de budget que le budget qu'ils mettent actuel, qui c'est des milliards par trimestre.
Bien sûr.
Donc, ça vient affecter beaucoup leur rendement trimestriel, mais je pense que Antoine, toi, tu avais un avis qu'ils font probablement la bonne chose et qu'il y a beaucoup de potentiel devant nous là-dedans, là.
Ben écoute, c'est un peu une discussion qu'on avait avant le podcast. Donc, si on donne des chiffres à notre audience aujourd'hui, si on regarde d'un trimestre à l'autre, d'une année à l'autre, donc le Q3 2021, ils ont terminé avec 29,2 milliards de revenus. Le Q3 2022, ils ont terminé à peu près à 27,8 milliards de revenus dans ces eaux-là. Donc, il y a une décroissance de 4% d'une année à l'autre. Et là où le bas blesse, c'est au niveau de la profitabilité. Donc, en 2021, à même date, c'était 9 milliards de profits. Et en 2022, pour le même trimestre, c'est 4,5 milliards de profits. Donc, tout ça pour dire que les profits sont coupés en deux et c'est très orienté au niveau des investissements qu'ils font dans le Metaverse. Mon point est le suivant. Le stock de Meta cette année a descendu de plus de 70%. Peu importe ce qu'ils disent, présentement, les investisseurs ne sont pas à l'écoute. Pour te donner une idée très simple, là, Meta risque de terminer cette année à peu près avec 25 et 30 milliards de profits nets. La valorisation boursière de l'organisation présentement est à 266 milliards de dollars. Donc, si on fait des calculs très rapidement, là, sont évalués à peu près à 8,5 fois leurs profits. L'entreprise de Jonathan ou la mienne pourrait être évaluée à 8,5 de nos profits au moment où on se parle. Et on n'est pas des entreprises publiques et on fait pas des milliards de chiffres d'affaires. C'est des réalités de marché que des organisations en prestation de services peuvent être évaluées à des multiples de la sorte. Mon point est le suivant. Une entreprise technologique qui fait 30 milliards de profits nets, à peu près 90 milliards de revenus, évaluée à 8 fois ses profits, c'est totalement ridicule. D'où la raison.
C'est une aubaine.
D'où la raison pourquoi Meta, ils disent dans leurs états financiers, ils rachètent présentement continuellement leur stock parce qu'ils se disent ça arrivera pas deux fois. Du moins, ils le souhaitent. Donc, la réalité et le point que je veux amener à l'attention, c'est que peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qui sort présentement, le marché est contre eux. Le marché veut rien entendre et le marché est pas intéressant à comprendre un petit peu ce qui se déroule avec le Metaverse et c'est correct. Je veux dire, c'est très difficile de faire gober à une population, de gober à une société un produit qui va être intéressant sur 5 à 10 ans. Mais le point est le suivant, quand tu es aussi acculé au bas du mur, au niveau financier court terme, soyons très, très clairs, parce que l'organisation fait de l'argent et a quand même un bon futur devant elle, mais quand tu es aussi bas à court terme, pourquoi essayer simplement de se dire on va investir un petit peu moins pour essayer d'au lieu de perdre 25%, perdre 13 ou 14%? Le stock va déjà pas bien. Donc ça, c'est le point 1. Et le point 2, le Metaverse, qu'on le veuille ou non, on va tous être dedans d'ici 5 à 10 ans. C'est sûr et certain. C'est même pas une question. On est déjà tout le temps dans des micro-metaverse et cette qualité de micro-metaverse va devenir de plus en plus sophistiquée à travers le temps. Le fitness va se retrouver dans le metaverse. Les enregistrements podcasts comme on fait aujourd'hui, on va se retrouver dans des metaverse. Les jeux vidéo, on n'en parle même pas. Il y a plusieurs catégories qui sont déjà prêtes et qui entrent tranquillement dans le metaverse. Et il y a plusieurs catégories que ça va prendre plus de temps. OK? On le sait très bien. Ça va être une catégorie à la fois. Moi, ma vision du futur pour le Metaverse, c'est que ça va être une catégorie à la fois qui va embrasser cette réalité virtuelle-là. C'est sûr qu'on se rend là-dedans. OK? Et la grosse distinction présentement comparativement à ce qui se déroule avec l'Internet, c'est que Meta a été une plateforme qui a été bâtie sur une plateforme sociale, mais qui ne possède pas de téléphone cellulaire et qui ne possède pas d'ordinateur. Donc, au final, ils sont pris à uniquement avoir la plateforme, mais quand un Apple ou un Google change les réalités du jeu, ils sont pris, ils peuvent pas faire grand-chose et c'est ce qui s'est déroulé avec iOS 14 il y a à peu près un an et demi de ça. Maintenant, ils font les choses différemment. Ils ont le MetaQuest et ils bâtissent la plateforme Horizon World qui risque d'être mature d'ici 4 à 5 ans. Donc, moi, mon point est le suivant. Je pense que tant qu'à y aller pour vrai, vas-y pour vrai, et au final, peu importe ce que tu dis à tes investisseurs que tu perdes, que tu aies 4,5 milliards de profits ou 6 milliards de profits sur le trimestre, les investisseurs, ils vont dire que l'entreprise va pas bien et les stocks volent à la baisse. Donc, joue le jeu. Et tant aussi longtemps que, bien entendu, que tu es capable de te financer toi-même, mais ce qu'ils sont capables de faire. Là, 4,5 milliards de profits pour n'importe quelle entreprise dans le monde, c'est le nirvana. Pour eux, c'est une descente de 25 % du stock et une perte d'environ 30 milliards de dollars en valorisation boursière, voire plus. Donc, écoute, t'es rendu là. Pourquoi écouter le marché boursier à court terme? Moi, j'ai l'impression que de toute façon, il te donne une fausse information avec ta valorisation. J'ai l'impression qu'il te dit n'importe quoi sur ce que t'es. Donc, pourquoi l'écouter? Va faire ta vision. T'as sûrement des informations en soi qui te prouvent que c'est une bonne chose d'y aller. Et encore une fois, toutes les autres entreprises sont en train d'investir sur le Metaverse. La semaine prochaine, je pense, ou peut-être l'année prochaine plutôt, Apple vont sortir leurs lunettes de réalité virtuelle. C'est sûr et certain qu'ils vont le faire. Pourquoi ils ne le feraient pas? Google met énormément d'argent sur le Metaverse en ce moment. Mais c'est juste que eux ne le font pas aussi de manière aussi assumée, on pourrait dire ça, que Meta. Donc, ça passe un petit peu inaperçu parce qu'il y a des investissements à part. Meta a joué son futur là-dessus. Donc, pourquoi pas y aller à 100%?
Ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est la quantité d'argent qui est mis avec la vélocité à laquelle c'est mis. Si on regarde ça là, froidement, c'est probablement la plus grande allocation de capital qui vient du privé dans une courte échelle de temps à l'échelle de l'humanité pratiquement. Parce que si on met les chiffres en perspective, pour vous donner une image, un des appareils qu'on a tous en main aujourd'hui qui a nécessité beaucoup de recherche et développement, c'est les premiers téléphones intelligents, donc le iPhone qui est sorti. Le iPhone a coûté un peu moins, la première version, là, un peu moins que 4 milliards de dollars de recherche et développement. C'est environ proche du montant que Meta met trimestriellement maintenant dans l'aventure de la Metaverse. Donc, c'est fou, là.
Mais clairement, sauf qu'il y a une distinction qui est importante à comprendre là-dedans, c'est que là, en ce moment, autant qu'ils sont en train de bâtir l'outil technologique, en l'occurrence, on pourrait comparer le iPhone au MetaQuest, hein, qui, on sait, à travers le temps, va devenir de plus en plus facile à intégrer, moins en moins gros, moins en moins lourd. On est capable de le voir venir. Mais en deuxième partie, tu es en train de créer littéralement ce qu'on pourrait comparer à l'Internet. Et là, la distinction, c'est que là, tu es en train de créer l'Internet 2.0 dans un monde virtuel et tu es en train, parallèlement à ça, de construire la devise technologique. Ou plutôt l'objet technologique. Donc, elle est là, la distinction que là, ça demande un capital de fou et il s'attaque à toutes les catégories en même temps. C'est pas comme s'il se disait, on va créer le metaverse des appels vidéoconférences. D'ailleurs, je vous mets au défi, testez-en un appel vidéoconférence sur Horizon World. Nous, en Q1 2023, on va se faire envoyer des MetaQuest par Meta pour faire des appels avec eux dans le metaverse. J'ai très hâte de le tester. Je l'ai pas testé encore, mais beaucoup de gens en ont parlé. Je pense que ça commence à être le temps de s'y intéresser. On peut mettre un orteil à l'eau avant de plonger dans la piscine, là. Mais bon, je pense que ça vaut la peine de commencer à tester le tout.
Effectivement. Puis ça va être intéressant de voir à quel point Meta va forcer les autres joueurs à augmenter leur vélocité de milliards à investir là-dedans. Toutefois, Microsoft vient de lancer un signal clair au marché il y a 2 semaines que Meta a probablement déjà gagné la course au niveau des périphériques. Microsoft vient de faire un partnership avec Meta pour que les périphériques de Meta, donc le MetaQuest, soient disponibles dans l'environnement de Microsoft, donc tout l'environnement 365 et Teams et tout ce qui vient autour. Et Microsoft investit beaucoup dans leur propre périphérique à eux. Donc, Microsoft vient de pratiquement dire, Meta, vous avez gagné au niveau des périphériques et continuez à pousser, allez-y, puis on va suivre votre matériel.
Mais tu le sais, t'es dans le domaine technologique, tu vas lancer un podcast, c'est pas un environnement qui a place à 2 gagnants. Et ça, on le sait. Ça a toujours été la même chose. Il y a plusieurs joueurs qui se jouent à une catégorie, il y a un joueur qui gagne et le deuxième perd. Mais perd très solidement. On l'a vu dans les téléphones, on l'a vu dans les outils technologiques au niveau du software, on le voit dans les ordinateurs, c'est toujours le même jeu. C'est un, ils disent ça en anglais, c'est « the winner wins all » ou
« winner takes all », yeah.
« Winner takes all », pardonnez-moi. Donc, c'est « it's a winner takes all market », c'est ça l'expression. Et c'est la même chose ici. Bien entendu, il va y avoir des metaverses numéro 2, la metaverse de ci, la metaverse de ça, mais il va y avoir un joueur dominant dans ce marché. Et quand tu as la capacité financière d'injecter, de réinjecter le capital et d'accepter sans tellement de stress une descente de ta valorisation à la bourse, pourquoi pas le faire? Tu sais, pourquoi pas le faire? Parce qu'il y a des signaux qui nous prouvent que c'est là où est-ce qu'on s'en va. C'est indéniable. Après, je pense que ce qui joue peut-être contre Meta, c'est un peu leur brand dans le marché en ce moment qui a été très, très critiqué dans les dernières années. Ça joue peut-être un petit peu contre eux. Et également, il y a une question de timing aussi. C'est-à-dire, tu fais ces investissements-là, quand ça va payer? Ça va payer à un moment donné, mais combien de temps? Et tant aussi longtemps que tu es capable d'avoir la profitabilité pour financer le tout, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Parce que de toute façon, ils sont en train de se rendre compte également dans leur modèle actuel qu'ils ont atteint une saturation de marché. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu as 3 milliards sur tes plateformes, ça commence à être difficile de faire du 20% de croissance d'un trimestre à l'autre, là. Et on le voit, le nombre d'utilisateurs augmente de 3-4%. Il y a des plateformes émergentes comme TikTok qui prennent également beaucoup de parts de marché. Donc, je pense que c'est de se dire, écoutez, on continue ce qu'on fait, on le fait de le mieux, mais là, on est rendu dans notre nouvelle itération de l'Internet. Et cette nouvelle itération-là, on va la dominer de la tête et des épaules avec les plateformes J'ai de la misère avec mon français aujourd'hui, mais hardware et les plateformes software, donc les MetaQuest Pro et bien entendu l'environnement Metaverse avec le Horizon World. Bref, le temps nous le dira, mais j'ai l'impression que ça fait du sens. Le plan fait du sens, c'est uniquement le temps que le marché l'adopte qui va peut-être être un peu plus compliqué.
Effectivement, comme tu dis, je pense que ça va être catégorie par catégorie, que ça va venir s'imprégner dans notre quotidien. Fort probablement que le travail va être une des catégories qui vont pousser beaucoup l'adoption de la métaverse. C'est pour ça, je pense, Microsoft a décidé de faire un partnership avec Meta. On est tellement beaucoup de gens en télétravail que ça serait un grand gain de pouvoir retrouver une simili-présence.
Toi et moi, Jonathan, tu sais ce qu'on va faire? On fera, bien parce qu'on se fait souvent des rencontres, là, un appel vidéoconférence dans le Horizon World d'ici quelques mois et on en donnera un suivi aux auditeurs du podcast. Je te le dis, j'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet. C'est assez exceptionnel. Donc, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de le tester.
Je suis partant pour essayer, tout à fait.
Merveilleux. Ben Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le podcast Hypercroissance. On se rappelle, Jonathan et toute l'équipe de Open Mind ont lancé leur podcast Pivot, un podcast technologique qui va interviewer des entrepreneurs dans lesquels... Ben, Jonathan, je pense que c'est peut-être mieux que tu nous dises un petit peu spécifiquement encore une fois quel est le podcast Pivot.
Le but, c'est de partir d'une idée technologique et d'amener ça à un produit à succès. Donc, c'est un podcast qui va éduquer, inspirer les gens avec des témoignages de gens qui ont réussi, des témoignages de gens qui ont eu des gros échecs qu'on peut apprendre d'eux. On va parler technologie, on va parler commercialisation. Donc, de donner tous les outils possibles aux gens de partir d'une idée à un produit technologique ou numérique à succès. Donc, le podcast Pivot, disponible sur Spotify, Apple Podcast et toutes les autres bonnes plateformes de balado.
On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Jonathan. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.